Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Florence Heldin. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Yves.
Florence, vous êtes coordinatrice de l'entreprise de dépliage. Vous allez nous présenter le principe. Face à vous, Anne Boucard.
Bonsoir.
Avec la compagnie Nadja, vous êtes membre de cette compagnie avec aussi Lydia.
Bonjour.
Bonsoir. Lydia Boucaran, donc toutes deux, vous êtes penchées sur un projet, le Palimpseste, vous nous en direz deux mots, et qui est en quelque sorte, avec cette entreprise de dépliage, une continuité. Et donc, pour commencer cette émission, l'entreprise de dépliage, Florence, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'entreprise de dépliage, formellement, c'est un projet de territoire qui est à la fois social et artistique, parce que porté par l'espace social, et qui a été financé par la CARSAT, la Conférence des financeurs, et la CARSAT Rhône-Alpes. Il est mené par Lydia et Anne avec la compagnie Nadja, qui assure tout le développement artistique, et moi je coordonne pour l'espace social.
Et je me tourne donc vers Anne et Lydia, la compagnie Nadja, quelle est-elle aussi ?
Alors c'est une compagnie qui est née en 2005 et qui a mené une quinzaine de projets de territoire et de projets de réalisation de pièces chorégraphiques et théâtrales pour le plateau. Et qui s'est remontée après quelques années de retrait pour écrire et réfléchir à la situation de façon individuelle et globale, et qui s'est relancée autour du projet Palimpseste sur lequel nous sommes en recherche actuellement.
Et donc, vous êtes deux, ou il y a plus de personnes autour de ce projet ?
Alors, pour l'instant, sur le projet, on est deux sur l'écriture du projet Palimpseste. Mais il y a sûrement des associations à venir qui sont en train de se fomenter.
Florence, l'entreprise de dépliage, qu'est-ce qui va être déplié ?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, je vais raconter le tout début de cette histoire. Ça a commencé avec le réseau des acteurs du vieillissement. En fait, depuis 2021, on avait travaillé toutes les personnes qui sont de près ou de loin en charge d'accompagner le vieillissement. On travaillait sur les représentations parce qu'on s'était rendu compte que l'autodénigrement et le dénigrement extérieur, parce qu'on parle bien de dénigrement de cet âge-là, vieillissant, avait souvent une incidence sur à peu près tout ce qu'on pouvait entreprendre d'autre. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé ça, beaucoup mené d'action. Et au moment de renouveler notre feuille de route, en 2022, je crois, on a commencé, on a été interrogé à nouveau des personnes âgées sur le territoire, on avait toujours des liens, mais là, on a été plus formellement les interroger. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, cette notion d'utilité sociale qui est un vrai bénéfice pour les personnes quand ça se passe bien, parce qu'on est inséré dans la société, etc. Ça, c'est intéressant de considérer cet aspect-là de notre personne. Ça pouvait être vécu comme une injonction quand on commence à vieillir, parce que le moindre grain de sable qui vient se mettre dans la machine pouvait éloigner la personne de cette utilité sociale et du coup la plutôt déprimant.
Ce que je voulais savoir, c'est cette utilisation du terme dénigrement, autodénigrement, comment se constitue-t-il ? Comment se révèle-t-il à la personne ?
Le vieillissement, on est habitué à avoir beaucoup de clichés, comme on a des clichés sur la jeunesse, comme on a des clichés sur plein d'autres notions de nos sociétés. Le vieillissement fait partie des endroits assez dénigrés quand on vieillit. Enfin, on imagine tout ce que ça véhicule comme difficultés, mauvaise santé. Les personnes elles-mêmes se disent « je suis plus bon à rien ». Notre vie n'est plus intéressante. Il y a des tas de choses comme ça qui sont racontées. Et en fait, parmi les acteurs du vieillissement, c'est quelque chose qui nous a questionnés sur comment on pouvait agir à cet endroit-là pour essayer de proposer autre chose.
Et d'ailleurs, ce dénigrement, on peut s'auto-dénigrer à tout âge également.
Oui, comme je dis, je parle des clichés.
Ça, c'est aussi justement peut-être le point sur lequel vous vous penchez.
Oui, on se rencontre, je crois, à cet endroit-là de... Qu'est-ce qui aujourd'hui fait nos singularités, c'est aussi ce qui peut être peu considéré et qui pour nous, au contraire, est très précieux. Et on a envie de mettre la lumière sur ces singularités-là pour se redonner de l'élan, pour trouver de nouvelles ressources, pour se redonner l'inspiration dont on a tous besoin pour continuer aujourd'hui.
Oui, pour nous, c'est aussi aller... retrouver de la puissance d'agir. Donc c'est rechercher avec les personnes qu'est-ce qui leur donne cet enthousiasme, cette puissance qui leur est propre et qui vont chercher à des endroits très particuliers, qui leur sont particuliers.
D'ailleurs, vous indiquez les singularités, les élans, réveiller aussi la curiosité et puis de s'ouvrir à la découverte, si infime, si ordinaire soit-elle. Ça, c'est indiqué sur votre flyer. Comment c'est discerné ce regard, ce point de vue sur cette proposition avec votre expérience et puis celle de Florence également?
Alors, on est d'abord allé chercher dans nos ressources. Et ça nous a conduit à travailler sur l'imaginaire, sur la mémoire, sur le rêve, sur le franchissement. Donc, comme on est des actrices, Anne et moi, du chant, de la danse, du théâtre et du clown, on utilise ces outils-là pour venir solliciter les personnes qu'on peut interviewer, par exemple, avec lesquelles on rentre dans la rencontre, pour susciter... Pour arriver à prononcer quelles sont ces petites choses qui nous permettent de déplacer un peu notre point de vue.
Donc ces petites choses, ce sont des paroles, des mots, des gestes. Et l'idée, c'est d'aller récolter ces traces-là dans les moindres détails. C'est vraiment d'aller aussi regarder ailleurs qu'une vue générale.
Et on s'est retrouvé à cet endroit-là parce que, justement, à force de travailler avec le réseau des acteurs du vieillissement, on en était arrivé à l'idée qu'on allait montrer aux personnes, en tout cas travailler avec les personnes, cet autre côté de leur personnalité, qui est cette part singulière, qui est unique, propre à chacun, et qui, celle-là, par contre, persiste au-delà de toute l'image publique, et qu'on avait envie d'aller chercher tous ces petits riens, tous ces petits... Justement, ces petits ordinaires, toutes ces petites choses qui animent la personne, qui enrichissent sa vie, qui aident à se lever le matin, et puis surtout qui nous tient debout, comme disait la responsable du CCAS. À travers toutes les crises qu'on peut traverser en tant qu'humain, il y a un petit quelque chose, une petite flamme qui réussit à passer par-dessus tout ça. Et ben, c'est ce truc-là qu'on voudrait aller chercher pour le cultiver, pour savoir que c'est ça qui nous fait vivre réellement, qui nous garde en vie, qui nous fait nous lever le matin. Et donc l'idée, c'était de dresser un portrait des personnes dans cette part sensible, et en réunissant tout ce que ces personnes auraient donné d'elles-mêmes dans cette part unique, on aurait eu un instantané du territoire d'Iwa, avec tout un ensemble de personnes de tous âges.
Est-ce que ce constat s'est-il établi selon vos observations sur une période longue ou assez récente?
Depuis 2021, en fait. En fait, ça a commencé avec les personnes âgées sur le vieillissement, parce que le trait était montré là. Mais on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus une question de territoire et une question d'humanité. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. On a tous une personnalité publique et une personnalité singulière. Et en fait, nous, on voulait réunir un instantané de toutes ces personnalités singulières pour les conserver dans une capsule temporelle qu'on laisserait au musée du Diwa pendant 50 ans. Et on faisait le pari, exactement comme à l'échelle d'un individu, aller chercher cette part unique, que cette part sensible du Diwa serait un fait historique, que cette part sensible de l'histoire deviendrait fait historique dans 50 ans.
Cette entreprise de dépliage, quelle en a été la genèse, cette rencontre entre vous trois?
Et ben voilà, donc une fois que ce projet a été défini comme ça,
par moi,
avec le réseau des acteurs du vieillissement, comme je l'animais et que je le coordonnais, on travaillait en bonne intelligence ensemble. Et donc j'ai écrit le projet, j'ai fini par écrire le projet pour aller chercher des financements, et j'ai eu ce financement. Et là, je remercie sincèrement Michel Geoffroy, qui a repris récemment la présidence de la compagnie Nadja, qui a réentendu le projet quand j'ai fait la dernière réunion du réseau des acteurs du vieillissement avant de quitter le réseau et qui m'a mis en relation avec Anne et Lydia. Au départ, c'était pour qu'on discute parce qu'elle trouvait qu'il y avait des points communs dans nos projets, mais nous, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de le mener ensemble.
Anne ou Lydia, vous-même aviez cette conscience à ce moment-là de cette rencontre possible et constructive?
Alors, on avait l'envie, en tout cas, de glaner ces élans, ces endroits de bascule vers un dépassement de soi. Et donc, c'est nous, c'est le projet Palimpseste qui a rencontré le projet dont parle Florence, Un monde sans moi.
Et juste, Palimpseste, ça a une signification?
Oui. Alors, c'est un parchemin composé de 1000 feuillets et sur lequel on réécrit à chaque fois une nouvelle page. Et on avait besoin, je crois, depuis quelques années, en tant qu'artiste, de retrouver des ressources qui peuvent aussi prendre leur essence dans les découvertes scientifiques. On est notamment en contact avec des neuroscientifiques pour nous aider à comprendre quels autres ressorts dans toutes les découvertes de liens interespèces, de liens qu'on redécouvre dans le monde vivant. On avait envie de découvrir, nous, ensemble, qu'est-ce qui pouvait vraiment se réécrire aujourd'hui. C'est-à-dire, comme le disait Florence tout à l'heure, c'est les individus, les personnes qui vont raconter des choses, elles écrivent la légende contemporaine. Et on a envie de croire que c'est possible de réécrire nos propres cartes, nos propres légendes.
Cette flamme découverte sur les personnes avec qui vous avez rencontré, est-ce que ça leur a fait un bienfait? Est-ce qu'il y a eu... en quelque sorte, un retour de lumière sur elle-même?
Alors ça, c'est les filles qui vont répondre à cette question, puisque c'est elles qui travaillent en direct avec les personnes.
Oui.
Moi, je tiens juste à préciser que cette petite flamme, c'est une parole de Sophie Linhart, qui travaille au CCAS, et je la remercie pour cette image, parce que je l'utilise beaucoup.
Lydia?
Alors, on est sur le terrain depuis septembre. Donc, on a envie de rencontrer et on commence à rencontrer des groupes de personnes de différents âges qui habitent à Die ou dans le Haut-Diois. On ne va pas les citer aujourd'hui parce qu'on a encore des autorisations à glaner et le blog va sortir, le journal de bord, d'ici la fin de la semaine, donc toutes les infos seront dessus. Et on rencontre aussi des individus qui sont habitants de Die ou du Haut-Diois et on frotte avec eux ces questionnements. Et on va solliciter les petits ressorts, leurs ressources, leurs élans, leurs désirs, quoi d'autre?
On les rencontre et on les laisse nous répondre avec leur façon d'être et leur façon de vivre à la question « qu'est-ce qui vous fait vibrer ?»
Et ce retour, donc, comment se décline-t-il par ce contenu artistique, cette pratique?
Alors, on est dans de la récolte de paroles. Des interviews, la récolte de gestes, ça peut être des gestes dessinés, des gestes du quotidien ou qui sont plus abstraits qu'un simple geste quotidien. On travaille à récolter aussi des points de vue. On a envie d'écrire des contre-cartes.
Alors, contre-cartes, c'est ?
En fait, c'est des cartes qu'on se permet d'inventer avec ces rencontres-là, avec les précieux de ces personnes-là. Que ce soit des points géographiques ou des points plus imaginaires, pour créer, dessiner des cartes du territoire que sont ces personnes.
Toutes les cartes qui n'existent pas encore.
Et ça donne lieu donc à ce journal de bord, en quelque sorte,
ouais.
Qui sera lisible pour tous.
Effectivement, il y aura tout au long de notre traversée de rencontres, il y aura donc le blog où on va... partager ces différents interviews, ces différentes photographies, gestes qui ont été glanés. Et donc, il y a cette capsule temporelle qui sera fabriquée avec les gens qui ont participé à l'automne 2026.
Et les autres rendez-vous, ça va être aussi par les ondes radiophoniques, où la question « qu'est-ce qui vous fait vibrer ?» va pouvoir circuler dans des émissions, ici, à partir de Radio Diwa, et puis dans la rue. Hein, on va venir vraiment de la même manière qu'on s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui nous tient en vie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On a envie de collecter, on a envie que cette question diffuse. Et on aura donc des petites réponses qui seront mises en ligne sur entreprisedodépliage.fr.
Qu'est-ce que vous ferez de toutes ces données, de toutes ces réceptions?
En fait, tout ce qui va être récolté va être ensuite conservé au musée de Di et du Diwa, qui est partenaire depuis l'idée du projet. Ça fait vraiment très longtemps que je leur ai remis ça dans les mains. En fait, on va conserver ça pendant 50 ans dans un contenant qui doit justement être capable de conserver tout ce qu'on va y mettre. Donc ça, c'est aussi un travail de réflexion et de connaissance de la conservation des objets qui participent à faire histoire. Et voilà. Et donc, on va poser ça au musée qui va traverser les âges. Et puis, ça sera à nous d'inventer ou pas. Peut-être, comment on aimerait que les personnes ouvrent cette boîte dans 50 ans. Mais ça, c'est encore plein de surprises parce que c'est en construction. Et puis, l'idée, c'est de ne surtout pas livrer un message à l'avenir parce que, en fait, ce n'est pas l'intention du projet. Là, c'est vraiment de poser ce qu'on est, là, un instantané de là où on est, comment on est, dans notre être le plus singulier, justement. Et ils en font bien ce qu'ils veulent. Peut-être ils vont renfermer tout pour 50 ans.
Et il va y avoir des rendez-vous publics le 5 mars, le 1er, et le 21 mai. Donc les lieux et les horaires seront mis en ligne. Et c'est des rendez-vous dans lesquels on va restituer, à travers des performances, des gens qu'on a rencontrés aussi, qui vont être nos invités, le public, les partenaires, pour rendre compte du processus qu'on traverse de façon plus concrète, plus imagée.
Et vivante.
Voilà, vous nous avez cité le calendrier à venir.
Je vais le préciser petit peu pour le reste des dates. C'est qu'en fait, il va être dans les grandes périodes. On va avoir, Lydia et Anne vont travailler jusqu'au mois de mai à peu près pour récolter un peu rencontrer toutes les personnes. Ensuite, il va y avoir un travail pour préparer ce qui va être mis dans la capsule. Et ensuite, il va y avoir des temps avec le musée aussi, qui va faire des conférences sur l'histoire, sur la conservation. Ça va être ouvert à chaque fois au public, bien sûr. Peut-être il y aura des temps spécifiques pour aller mettre dans la capsule ce qui aura été récolté. Un temps peut-être pour préparer la cérémonie de fin, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait une chouette cérémonie au moment de la fermeture officielle, qu'on fasse ça très officiellement. Et puis peut-être des surprises sur le chemin. Mais ça, on est... En fait, on construit avec les partenaires, puisque c'est l'idée de ce projet aussi, de rester très vivant avec les partenaires. Donc là, on peut déjà dire qu'on travaille avec le musée de Di et du Diwa, qui est un partenaire, pour le coup, essentiel. On a Erdiwa, qui est aussi coproducteur de l'émission et qui travaille avec nous. Vous allez travailler beaucoup sur tout ce qui va être en récolte sonore. On a la communauté de communes du Diwa. Il y a Tiffaine aussi, avec la petite agitée, qui va travailler tout le graphisme, par exemple, qui a déjà fait le flyer et qui fera bien d'autres travaux, et puis qui va travailler aussi sur les supports, et puis aussi qui va s'occuper du blog, qui va être mis en ligne à la fin de la semaine. Il y aura peut-être un potier ou une potière qui travaillera, mais ça reste une surprise, puisqu'on ne sait pas encore si on va aller jusque-là, on verra.
Alors, je reviens sur le musée de Di, hein, avec son partenariat. Tu parlais donc de conférences, d'histoire. De quelle histoire sera traitée?
En fait, Jacques Planchon a évidemment une connaissance très très fine, et avec Camille, maintenant qui est arrivée, les deux ont une connaissance très très fine du principe de conservation. Et quand je lui ai posé la question de qui décide de l'histoire, parce que justement j'expliquais qu'on allait amener plutôt cette part sensible plutôt que les grands faits historiques comme les guerres et les grands généraux. Et donc je lui demandais qui fait histoire, à part les vainqueurs qu'on nomme toujours. Et il me disait, en fait, il y a déjà ce qu'on peut conserver. Et ça, ça rentre vraiment de manière importante dans ce qui va faire histoire. Et donc, en mêlant le projet avec ces considérations, on s'est dit que c'est tellement intéressant qu'il faudrait que le public puisse entendre ça. Donc, c'est raconté entre les faits vécus par les personnes, enfin, l'histoire des hommes et les objets qui vont témoigner de l'histoire des hommes. Il y a tout un univers qui s'ouvre pour aller raconter l'histoire commune, collective, avec ça. Donc il y aura un temps là-dessus. Jacques participera à la conférence et il a des idées d'autres personnes qui pourraient intervenir.
Alors, sur le terrain, c'est aussi votre travail, Lydia et Anne. Quoi consiste-t-il? Vous disiez donc aller sur des groupes de personnes d'âges très différents. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des groupes intergénérationnels également?
Oui, on va aller aussi à la rencontre de plus jeunes, d'ados, de jeunes adultes. Ce qui se dessine jusqu'ici dans les rencontres qu'on a faites, c'est le désir et la nécessité de faire ensemble. On se rend compte que ce soit en rencontrant des individualités ou des groupes, vraiment ce besoin de trouver comment agir ensemble, comment trouver le commun.
À l'heure actuelle, vous-même, vous ne savez pas forcément sur quoi vous vous dirigez. Vous êtes comme des exploratrices qui à la découverte d'un nouveau continent, peut-être.
On est des exploratrices du Diwa. Ce qui fait notre chemin, c'est quand même la carte du Diwa et les gens qui y habitent. Et quel est leur lien avec ce territoire? Comment ils y habitent? Qu'est-ce qui les fait vibrer dans ce territoire? Et donc, les seuls critères qui nous guident, c'est que ce soit suffisamment varié en termes d'âge, qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait des gens du ciel et de la terre.
C'est-à-dire, réellement, on avance en chercheuse. On n'est sachante en aucun cas. On a vraiment envie d'être vecteur et d'être reflet, d'être une surface écran de ce qui nous est précieusement livré.
Et d'arriver avec des questions ouvertes qui en amènent encore d'autres.
Je reviens sur ce terme d'auto-dénigrement. Face à ça, est-ce que c'est de tenter de ramener l'être des personnes que vous verrez?
C'est de ramener, quand Lydia dit faire ensemble, effectivement, c'est vraiment ce vivant-là qu'on cherche, qui est improvisé et qui se dessine avec la relation. Et c'est une relation avec une personne, avec un territoire, avec ce qui se passe au moment. Il y a des gens qu'on va voir sur un aspect, puis qui nous livrent un autre aspect de leur personnalité. Et donc, c'est se dire qu'on est toujours sur un fil, toujours en dynamique, et qu'on ne préjuge pas de ce qui va se passer. Et c'est là aussi où on a cette... on arrive en chercheuse, on arrive avec des hypothèses, et on est là pour aller ailleurs, y répondre de façon différente. Et...
En quelque sorte, le naturel de chacun.
Oui, c'est ça qui peut se définir par rapport à un geste gratuit, un geste de travail, par rapport à un lieu, par rapport à une gourmandise, par rapport à un humour.
Se laisser surprendre, en fait.
Et justement, c'est par rapport à la société d'aujourd'hui, qui tend peut-être à nous égarer par les médias, de nous abreuver de toutes sortes d'infos, d'intox, de rien même, fond.
Je trouve que la part publique, la personnalité publique des personnes a toujours été mise en avant, je pense, dans les sociétés, en tout cas occidentales certainement.
Oui.
Et que c'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas une affaire contemporaine, quoi. C'est de tout temps, la personne privée a toujours été mise en retrait par rapport à la personne publique. Et qu'en fait, ce qui fait notre puissance, et ce dont on se souvient de nous, nos proches se souviennent plutôt de notre part privée que de notre part publique, et c'est celle qui prend toute sa force, finalement. Donc je me dis, ça semble important de se rappeler qu'on est puissant quand on est le nous le plus unique et singulier qui soit.
Vous avez commencé sur le terrain, donc à aller à la rencontre de personnes. Est-ce que vous y avez découvert de grands trésors?
Oui.
C'est-à-dire qu'on a, on est effectivement aussi nourri de ce qu'on entend dans les prises de risques, dans les précieux qui nous sont livrés, dans les élans qu'on peut aussi nommer parce qu'on est dans cet espace de rencontre. Et puis on essaye aussi en étant à la recherche de laisser l'inconnu arriver, c'est-à-dire de ne pas présager de ce qui va pouvoir être demandé ni répondu.
À la Croix-Rouge, il y a une personne, une résidente qui nous a dit que notre travail c'était d'aller chercher le trésor qu'il y avait dans les personnes.
Est-ce que vous avez une idée probable ou pas de ce qu'on trouvera dans cette capsule temporelle ?
Ah bah oui, puisque c'est nous qui allons y déposer les choses.
Est-ce que vous avez déjà un concept ou alors ça va peut-être se créer dans ce cheminement?
Comme tout explorateur, Lydia et Anne ont des outils et des méthodes. C'est-à-dire que partir à l'aventure, ça ne veut pas dire partir avec rien et sa bonne bouille. Il y a du travail derrière, il y a des outils, on ne part pas tout nu quand même.
Mais je parle dans cette capsule, hein, précisément. Sur quel support sera-t-il ce message ou cet héritage, en quelque sorte?
Alors, en s'intéressant à la conservation des objets, on s'est rendu compte que pour le son, on répond vinyle, que pour le geste, on répond geste parlé, son. Et donc là, c'est encore sur le vinyle que les documents vont être pressés. Ensuite, il y aura des prises de vue. Donc, à la prise de vue, à l'image, on répond diapositive. Et ensuite, on pense qu'il y aura des contre-cartes qui vont être sur un support de papier qui reste encore à définir pour qu'il puisse effectivement être lisible en 2075.
C'est vertigineux quand on dit le 2075.
Ça, en fait.
Si loin. C'est
moi,
loin,
j'y serais plus. Hein.
Ça fait un peu quand même.
Ouais. Alors, tous ces partenaires avec vous, le musée, la CCD, le SCDD aussi.
Candaprod, parce qu'en fait, dans les partenaires principaux, même si c'est l'espace social qui porte, c'est la compagnie Nadja avec Anne et Lydia qui s'occupe du côté artistique. Moi, avec ma boîte Candaprod, qui m'occupe de la coordination.
Et donc, en quelque sorte, chacun amène ses compétences, son savoir-faire, ses connaissances pour vous seconder et vous suivre.
Ouais, en fait, son lien avec le territoire, on travaille aussi avec Erdiwa. Et tout à l'heure, on parlait des médias. Et pour nous, vraiment, faire avec ce média-là qui est local et qui crée du lien sur le territoire, c'était indispensable. Parce que Erdiwa proposera des micro-trottoirs, ira à la rencontre d'autres personnes d'une autre manière, d'une façon avec ses outils à elle, de radio. Et pour nous, c'est très intéressant de faire le lien par tous les partenaires, avec tous les partenaires.
De la même manière que les deux projets se sont rencontrés parce qu'ils avaient une force commune et qu'ils ont donné naissance à un troisième projet, on pense que là, il y a quelque chose à regarder aussi, qu'on peut zoomer sur cette collaboration qui est venue. Et peut-être tu peux en dire...
En fait, l'idée, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on amène de la richesse sur le territoire, là, c'est un financement qui arrive de l'extérieur. L'idée, c'est que le projet doit nourrir le territoire et les personnes qui vont en bénéficier le plus largement possible. Et après, de manière indirecte, c'est intéressant de voir quelle est la plus-value pour les acteurs, les personnes qui vivent sur le territoire. Et là, dans l'idée, on s'est dit, on va tester quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Peut-être que ça existait, mais en tout cas, nous, on ne l'a pas vu. C'était de réunir nos deux projets sans les annuler pour autant, parce que Palimpseste continue d'exister avec une recherche qui est autre que ce qu'on fait avec l'entreprise de dépliage. En tout cas, ça marche ensemble. Et donc, l'idée de réunir ces deux projets pour en mener un troisième, on se disait, c'est une expérimentation qui vaut peut-être le coup d'être menée à une époque où les subventions sont un peu difficiles à aller chercher et que ça peut peut-être donner des idées plutôt que de réunir, de fondre les projets pour pouvoir œuvrer ensemble, mais peut-être de garder ces petites particularités de chacun et que ça peut peut-être nourrir des nouvelles formes de travail entre partenaires. Et de la même manière, et c'est vous qui avez amené ça, Lydia et Anne, l'idée que les points d'étape avec les partenaires ne se fassent pas derrière un ordinateur avec nos cahiers, nos crayons, mais plutôt qu'on vive ce moment, qu'on partage un point d'étape vivant de qu'on montre ce qu'on fait chacun, qu'on le partage avec les autres et qu'on vive un peu ce projet finalement. C'était aussi une manière de dire les liens qu'on crée avec les partenaires vont aussi ailleurs, se tisser ailleurs que habituellement où on est content d'œuvrer ensemble, de mener des projets, d'arriver jusqu'au bilan positif ensemble. Mais là, c'était de vivre quelque chose pour imaginer que peut-être, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais peut-être que les liens vont être tissés différemment. On verra dans l'avenir si dans nos projets communs, si on se retrouve, quelle incidence ça aura. Peut-être qu'il faudra qu'on s'interroge, tous ceux qui auront participé.
Ce que vous avez commencé à faire sur le Haut-Diois ou sur le Diois, d'aller à la rencontre et pour les prochains rendez-vous aussi à venir, est-ce qu'il a été établi en quelque sorte un agenda ?
Oui, depuis septembre, jusque-là, la petite trêve de quelques jours à la fin de la semaine, mais on repart dès début janvier, on a des rendez-vous qu'on pose au fur et à mesure du calendrier pour que toute la matière issue des rencontres soit prête à être travaillée collectivement et avec les artistes qui vont créer la capsule temporelle qui va être mise au musée. Et on aura ce temps donc, entre le printemps et l'automne pour confectionner et peaufiner les choses.
Et ma question était de savoir comment le public saura votre venue. Est-ce qu'il y a un agenda ?
On va vous contacter.
D'accord. Non, c'était pour savoir
vous
comment vous
aurez
preniez...
peut-être un appel ou une lettre ou une rencontre dans la rue. Ou...
Après, il va y avoir des modes de communication aussi, comme le flyer, l'affiche et les liens du blog qui vont tenir au courant de l'actualité au fur et à mesure, vraiment comme un journal de bord.
Et une émission à Erdiwa encore à venir, qui on approchera, on sera plus près de la fin, on pourra parler encore différemment du projet. Et l'idée, c'est que ça grandisse avec les personnes, avec les partenaires. C'est ça qu'on essaye de garder vivant comme une méthode de travail, mais expérimentale. Hein. On verra bien si c'est... Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt fonctionnel.
Et jusqu'à présent, le public que vous avez consulté est partie prenante
Oui. Plein d'enthousiasme et plein de... d'imprévus dans nos et d'imprévus bénéfiques et joyeux.
Et donc eux-mêmes ont saisi un peu le sens de votre démarche.
Oui, c'est puis il n'y a pas vraiment de hasard puisque ça répond à l'endroit des outils qu'on propose.
Et donc il y aura ce blog hein, pour connaître un peu l'évolution hein, de cette entreprise de dépliage. Je donne l'adresse hein, www.entreprisedepliagetoutattaché.fr.
Et on a aussi l'idée que après ce projet, cette capsule temporelle qui sera déposée va devenir un objet en lui-même. On verra l'aspect extérieur qu'elle pourra avoir, mais le rêve, ce serait que d'autres projets viennent s'attacher, viennent s'appuyer sur cet objet qui appartient au territoire et pour aller y créer d'autres projets ou des suites, ou que sais-je, soit en lien avec les représentations, soit en lien ou même des liens que les acteurs tisseront eux-mêmes. Mais l'idée, c'est que ça reste, si ça peut rester vivant pendant 50 ans.
Anne Bocard, Lydia Boukiran et Florence Heldin, je vous remercie toutes trois d'être venues pour nous présenter donc cette entreprise de dépliage.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.